sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Kevin Boisseau, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis, Anna Sigalevitch pour un retour sur les grands festivals lyriques de l'été. Nous allons en effet parler de Salomé de Richard Strauss, montré vu au festival de Salzbourg. D'Ariane Anaxos du même Richard Strauss était cette fois à Aix-en-Provence et enfin, les maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner, bien sûr, à Bayreuth. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour découvrir le musée de la Romanité à Nîmes et son exposition inaugurale Gladiateur, héros du Colisée. C'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 24 septembre. Et nous ouvrons cette émission avec l'une des productions qui semble avoir marqué l'été, celle de Salomé, mise en scène par Romeo Castellucci, que vous avez vu tous trois au Festival de Salzbourg, pas moi, hélas. Salomé, adaptation de la pièce qu'Oscar Wilde avait écrite directement en français, mais c'est dans sa traduction allemande que Richard Strauss la découvre et en fait donc un opéra. L'histoire de Salomé tourne autour de cette question du désir, un désir clairement physique, schéma triangulaire de la circulation, ou plutôt de la non-circulation du désir entre Hérode, Salomé et Yohanan. Comme Electra, Salomé est un opéra d'un seul bloc, un seul acte, 1h40, habituellement, je ne sais pas si c'était le temps, vous allez nous le dire, de la version mise en scène par Castellucci. Avant d'en parler plus avant, quelques mesures tout de même de cette œuvre.
Oh,
Voilà pour cet extrait de Salomé, cette voix que l'on entend est celle qui vous a fait vous pâmer à vous lire, Emmanuel Dupuis, Emmanuel Giuliani. Alors on va préciser tout de suite qu'Anna Sigalevitch n'a pas eu de chance parce qu'elle n'a pas vu la chanteuse dont nous allons parler à l'instant, mais une autre distribution, mais vous êtes rattrapé sur Medici TV. Si on est abonné, on a la chance de pouvoir voir cette production sur cette chaîne. Emmanuel Giuliani, pour commencer, qui vient-on d'entendre ?
On vient d'entendre donc le rôle-titre, Asmik Grigorian, qui en effet, alors c'est normal qu'un opéra comme Salomé repose sur l'interprète, la chanteuse et actrice qui incarne Salomé, parce que vraiment, elle infuse de son pouvoir vénéneux vraiment de tout l'ouvrage. Et c'est vrai qu'en choisissant aussi bien la plastique vocale que la présence physique de Asmik Grigorian pour incarné Salomé, Romeo Castellucci et Franz Welser-Möst ont trouvé une chanteuse qui à la fois affronte et triomphe, non pas avec une énorme voix, mais avec une voix tellement bien projetée que tout passe, du grave à l'aigu en passant par le médium sans problème, et avec une extraordinaire musicalité. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'ai pas mal de réserves sur le spectacle et musical et scénique, mais en revanche, ce que j'ai trouvé formidable dans cette Salomé, c'est que c'est la tragédienne jusqu'au boutiste, ce personnage, comme vous l'avez dit, de désir tellement frustré et tellement inabouti que voilà, ça, la déflagration finale est terrifiante, mais il ne peut pas y avoir autre chose. Mais à la fois, c'est vraiment une cousine, une sœur, de la maréchale, d'Ariane dont on va parler, de la comtesse de Capriccio, enfin de toutes ces grandes héroïnes straussiennes, de toutes ces grandes amoureuses straussiennes, qui pour certaines ont des amours plus, enfin c'est jamais très pacifié, mais en tous les cas plus normal, mais qui en tous les cas ont cette ligne de chant, ces allers-retours avec l'orchestre, ce mariage avec les timbres orchestraux si extraordinaires de Strauss, que ce soit dans les grands volumes, les grands outils, ou au contraire dans la plus diaphane dentelle. Et ça, vraiment, elle est absolument formidable là-dessus. Donc c'est vrai que, pour elle d'abord, me semble-t-il.
Emmanuel Dupuis, même coup de cœur pour Asmik Grigorian.
Oui, tout à fait. Bon, c'est une chanteuse que moi j'avais déjà entendue, mais qui m'avait jamais vraiment bouleversé. Mais là, véritablement, elle a trouvé le rôle qui lui permet d'exploser, si je peux me permettre, parce qu'en fait, elle offre une véritable performance à la fois vocale mais aussi physique, parce que c'est aussi ce que lui demande le metteur en scène. Mais en fait, pour ce rôle, la grande difficulté, c'est que Salomé, c'est une adolescente. Elle a 15 ou 16 ans. Et en même temps, il faut une chanteuse qui a une voix avec beaucoup d'endurance et beaucoup de puissance. Et là, Asmik Grigorian réunit toutes ses qualités, parce qu'en fait, elle est toute menue. Donc en fait, elle a un côté vraiment très juvénile. Et en même temps, cette voix puissante, mais en même temps, comme le disait Emmanuel, très souple, très lyrique, très lumineuse par moments et avec une très grande musicalité. Donc oui, c'est vraiment une incarnation de tout ce premier plan.
Alors, autre façon d'écouter Anna Sigalevitch. Alors, si vous l'avez vu en vrai, cette production, c'était pas avec Asmik Grigorian, mais vous êtes rattrapé sur Medici TV. Vous allez nous parler tout à l'heure de ce que vous avez pensé du reste, oui, de cet opéra, mais sur cette
c'est
chanteuse.
Sûr que moi, ma perception du spectacle est très faussée et très différente, et j'ai un peu découvert le spectacle en voyant la production donc sur Medici TV, parce que la chanteuse qui a remplacé Asmik Grigorian le soir où j'y suis allée, qui s'appelle Malin Biström, qui est une jeune soprano suédoise, n'a pas répété.
Oui, elle est arrivée.
C'est-à-dire qu'elle est arrivée le matin.
Parce qu'elle était souffrante.
Elle était souffrante, donc elle n'a pas répété. Elle est arrivée le matin.
C'est quand même curieux.
Très étrange. Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est
un autre problème.
C'est un petit festival qui débute.
Petit festival qui a pas peu de moyens.
En effet, assez étonnant. Donc, je ne peux que saluer la performance et le professionnalisme incroyable. Comme Emmanuel l'a très bien dit, la difficulté de ce rôle complètement monstrueux. Donc, elle a à peu près assuré, quoique, enfin, il y avait des petits problèmes dans les aigus. Bon, voilà,
mais restons sur Grigorian.
Mais surtout,
ce que vous avez entendu, vu.
Les différents personnages. C'est-à-dire que la jeune suédoise, donc Malin Biström, est une sorte d'Ophélie blonde avec les cheveux longs, un peu éthérée. Et Asmik Grigorian, donc pour en revenir à elle, j'ai complètement vu la production différemment parce qu'elle a quelque chose d'extrêmement piquant, une, en effet, très juvénile. Elle a un côté adolescente et en même temps, elle a l'insolence de la jeunesse et la présence, l'affirmation et l'autorité d'une héroïne. Donc c'est vrai que de voir, et on le voit dès le départ, dès qu'elle entre en scène, au départ, ça commence par juste, en fait, derrière un voile noir, hop, elle entre à petits pas dans sa robe blanche avec un voile sur la tête blanc et une couronne. Et elle enlève, elle a une épée dans la main qu'elle pose au sol et elle enlève ce voile et cette couronne pour qu'elle dépose sur l'épée. Et on voit un tout petit bout de jeune fille, on se dit mais c'est, en effet, elle doit avoir, c'est une adolescence. Moi, je me demandais même si c'était vraiment le personnage de Salomé quand je l'ai vu au départ. Et ensuite, ce qu'elle dégage, c'est vraiment complètement unique. C'est comme un peu Evelyn Erlitius qu'on a vu en Electra. C'est le même genre de révélation.
Le même genre de révélation.
Un rôle, une chanteuse.
Patrice Chéreau qu'on a vu exactement en Provence.
En 2013-14, je ne sais plus.
Ouais, 14, je crois.
Voilà, peut-être. Bon. Voilà, donc c'est le même genre de révélation. Et en effet, elle prend absolument toute la place dans le spectacle.
Enfin,
et
elle prend toute la place, mais le reste de la distribution, quand même, tient parfaitement la route. Enfin,
ah oui, voilà. Tiens, dire, sacrément.
Il n'y a pas un maillon faible. Oui, je veux dire, à la fois le baryton Gabor Bret qui chante Yokanaan, c'est vraiment un magnifique baryton avec une vraie puissance. Il y a quelque chose d'elle de totalement halluciné dans son chant. Donc on croit vraiment ce personnage de prophète. Et en plus, bon, ce qu'en fait le metteur en scène est assez intéressant. On y reviendra. Mais tous les autres, John Daza qui chante, le ténor qui chante Hérode, a un éclat, une sorte d'insolence aussi qui. C'est très, très, très convaincant.
Pas convaincu, etc. Emmanuel Giuliani.
Non.
Non,
ah
bon.
Ah oui, c'est
non,
vrai, mais j'ai beaucoup aimé aussi.
Alors peut-être on n'a pas eu la même représentation et on sait à quel point c'est.
D'un soir à l'autre.
Contestez,
je vous en prie.
Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une incarnation physique et cet être dont Yokanaan, dont elle ne cesse de dire qu'il est tout blanc et qui apparaît dans la mise en scène tout noir, très, très, très saisissant. En revanche, la voix était un peu palote, moi, le jour où j'étais. Très, très, très musicale. Mais ça manquait d'une très belle ligne de chant. Là aussi, une musicalité tout à fait accordée et à ce que fait aussi le chef d'orchestre, même s'il pourrait un peu se passionner par moments. Et le Hérode, alors moi, il était un peu ténor qui klaxonne. Quoi.
Je confirme, on n'y est pas
le même soir. Il ne klaxonnait pas.
Parce que même par rapport à la direction musicale, moi je trouvais justement qu'il y avait dans la direction de Velsermes des fulgurances et des accélérations totalement saisissantes. Et puis en plus, bon, c'est quand même.
Tellement bien joué.
Voilà.
Enfin, ça, il n'y a aucun doute.
C'est le Philharmonique de Vienne qui est dans la fosse.
Avec cette musique, c'est complètement.
Les couleurs du Philharmonique de Vienne, c'est absolument unique et voilà, c'est l'orchestre au monde qui joue le mieux la musique de Richard Strauss, tout simplement.
La beauté de chaque soliste, comme on entend tout, la façon dont miroitent les vents, les cordes, les cuivres, tout, absolument tout. Et le soir où je suis allée aussi, peut-être qu'on était le même. Ah ben non, vous avez vu, Grégoriane. l'orchestre était aussi très en forme, extrêmement à l'écoute. Du coup, il y avait une tension qui était vraiment palpable dans la salle, mais du coup, qui faisait vraiment corps entre le plateau et la fosse. Et c'était très beau, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'éclat. Effectivement, une patte sonore extrêmement maîtrisée de bout en bout, mais avec des arêtes et une vraie puissance. Bon, et de la nervosité
aussi. Giuliani, il y avait peut-être un virus qui rôdait ce soir-là chez les interprètes et dans la fosse.
Oui. Le Narrabot est très très bien. Très bien. Et qui a lui aussi la grande musicalité et à la fois de Yokanaan et de Salomé.
Alors, on a cité plusieurs fois le nom de Romeo Castellucci, mais on n'a encore rien dit de ce que l'on voit véritablement, à part cette introduction très bien décrite, comme toujours, par Anna Segalevich. Moi, j'en ai vu seulement des extraits de cette production, avec une chose assez marquante, notamment sur les visages des interprètes, mais sur des couleurs employées par Castellucci. Emmanuel Dupuis, peut-être pour commencer là-dessus.
Alors, il faut préciser que cette production est donnée au Manège des Rochers, qui est le théâtre historique du Festival de Salzbourg. Et en fait, le Manège des Rochers, c'est un ancien manège équestre qui est creusé dans la falaise avec des loges qui sont elles-mêmes creusées dans cette falaise. Et là, pour les besoins du spectacle, les loges ont été fermées par de la fausse pierre. Donc en fait, on a face à nous un immense mur de pierre, et c'est extrêmement oppressant, et on a presque l'impression d'être nous-mêmes spectateurs enfermés au fond de la citerne, comme le prophète Yohanan. Et devant cette falaise, il n'y a pas de décor, il y a simplement un plateau doré. Donc au début, on se dit qu'on va peut-être assister à un spectacle un petit peu minimaliste, ce qui serait un petit peu étonnant quand même de la part de Castellucci. Mais en réalité, il n'en est absolument rien, puisqu'il y a au contraire un foisonnement incessant. Castellucci peuple son spectacle d'une multitude de symboles. Ça n'arrête pas. Des symboles qui sont parfois assez obscurs, qu'on ne comprend pas toujours. Mais on se dit finalement que c'est pas grave parce que c'est comme de la psychanalyse des rêves, quoi. Je veux dire, il
travaille de plus en plus comme ça. Voilà. Oui,
il laisse le spectateur tranquille aussi.
Exactement.
Moi, j'aime bien qu'on me.
C'est vraiment tranquille ou sursollicité et donc d'une certaine façon tranquille.
Il stimule à la fois l'imaginaire et en même temps
il
n'assène pas de.
Oui, mais
il n'y a rien d'asséné.
Enfin voilà, c'est ça. Il ouvre la libre interprétation d'une certaine manière et bon, c'est plutôt une bonne chose. Mais ceci étant, c'est vrai que moi je me suis demandé. À un moment quand même, c'est Castellucci n'avait pas un peu trop peur du vide, parce que vraiment, pendant une heure et demie, ça n'arrête pas. On voit défiler un double enfant de Salomé, à un moment il y a des géomètres qui apparaissent sur scène, on voit un orchestre de cabaret, un combat de boxe, etc.
Il n'y a pas le combat.
Ils sont prêts au combat, bon. Etc. Donc on se dit qu'à un moment un petit peu d'apaisement et d'épure ne ferait peut-être pas de mal. Mais à côté de ça, il y a quand même des images extrêmement fortes. La direction d'acteur, ça tient plus de la chorégraphie que du théâtre. C'est vraiment réglé au millimètre. Et c'est un spectacle dont on ressort quand même assez secoué.
Emmanuel Giuliani, plus réservé.
Alors, pas sur le caractère esthétique, la beauté des lumières, ces gammes de noir, de doré, de rouge qui barrent le visage.
Le bas des visages, l'interprète.
Le bas des visages, sauf Hérodiade qui a du vert. Et puis, en effet, ce côté mi-elfe, mi-princesse avec sa petite couronne, voilà, de Salomé, c'est vrai qu'il y a de très très belles images. Comme vous, Emmanuel, moi j'ai été un peu gênée parce que je me suis dit, quand même, il y a une invitation à essayer de les comprendre ou de les interpréter par cette forêt de symboles, comme disait le poète, mais qui ne cesse. Et au bout d'un moment, je trouve qu'il va contre, justement, la grande dilatation de la musique. À certains moments, justement, on veut de l'épanchement, de la respiration, et voilà, et que ça prenne le temps, et ça ne le prend pas. Et donc, je trouve qu'il rompt trop le temps par son propre rythme, il rompt le temps de la musique, et ça m'a un peu gênée. Si bien qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé que tout ça était à la limite un peu vain, V.A.I.N. D'autant que la fin, le grand monologue de Salomé, où là, on s'attendrait aussi à une immense dilatation. Moi, je pensais que le mur allait se rapprocher, qu'il allait faire un effet.
Bouger la falaise.
Non, mais il est capable.
Ça, oui.
Enfin, voilà,
il le dit au départ. Voilà, les pierres
qui auraient un effet. Voilà, et qui aurait un effet avec les pierres. Et Salomé est sur les genoux de ce corps sans tête qui est donc le Yohanan, puisque c'est pas la tête de Yohanan, mais d'un cheval. On est dans le manège des rochers. Heureusement que c'était pas une ancienne poissonnerie. Je me suis dit au passage. Enfin, bon, ça, c'est idiot. Mais voilà, c'est un peu facile.
Une grosse tête de poisson.
Comme pour le taureau dans Moïse et Aaron, il y a un vrai cheval dont on entend le bruit quand on doit l'emmener, qui fait un tout petit tour. On voit vaguement sa tête et qui repart.
Tout à l'heure, il y aura des chiens pour les maîtres chanteurs.
Il y a quand même des choses qui sont un peu vaine. Et donc ce monologue de Salomé, où là je m'étais dit il va se passer un truc énorme, finalement est un peu petit bourgeois. Donc c'est pas forcément très abouti, alors que c'est d'un grand artiste, un grand plasticien en tout cas.
Emmanuel Dupuis s'étouffe très rapidement en réaction avant d'entendre Anna.
Oui, enfin, il y a quand même des moments où justement le théâtre prend le dessus, et notamment l'affrontement entre Salomé et Yohanan, je pense, et le traitement du personnage de Yohanan, en fait, qui est une créature, il en fait un personnage tout noir avec une plume d'Iroquois sur la tête, et puis un manteau.
Il est tout en plume d'ailleurs.
Un manteau de plume, tout noir. Donc c'est c'est une créature mi-homme, mi-animal. Et à un moment, on va le passer au jet, comme on passe les chevaux au jet dans leur box. Donc voilà, c'est l'homme cheval et cette monstruosité. On comprend que cette monstruosité décuple le désir de Salomé. Ce rapport-là, moi, j'ai trouvé ça très très intéressant.
Anna Segalevitch, peut-être pour terminer sur cette mise en scène, et en plus, Emmanuel Dupuis employé le terme de chorégraphie, à comme Cindy Von Acker.
Oui, alors bah oui, mais production. Ça, sauf que moi, malheureusement,
parce que c'est réservé surtout pour Salomé.
Oui, c'est quand même pas mal pour Salomé. Et alors, bon, alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que moi, j'en ai vu moins, du coup, puisqu'elle faisait moins de choses, Salomé, et j'ai été, je dois dire, tenue en haleine de bout en bout, parce que au départ, donc on a les cinq juifs qui passent la serpillière comme pour faire taire un petit peu, pour laver, pour qu'on puisse ne pas entendre la parole de Yohanan. Moi, ça m'a évoqué plein de choses. Ces personnages avec le bas du visage rouge qui font penser pour moi à des personnages un peu de Malevitch, quelque chose d'un petit peu totalitaire où on fait taire la parole. Hérodias en vert, qui est le vert qui représente la jalousie, la folie. Enfin, je trouve que c'est très évocateur tout le temps. Il faut parler aussi quand même de cette danse des sept voiles, qui est sans danse. Il y a une tension dans le fait qu'il ne se passe rien.
Reste immobile, hein, Salomé.
Alors, vous l'avez vu en position fœtale sur un cube. Moi, elle était cachée carrément. Mais je veux dire que ce vide et cette non-présence de Salomé à ce moment-là.
Là, il n'en fait pas trop quand même.
Mais là, c'est Belle-Sœur Meuse qui n'en fait pas assez. Parce qu'alors, il n'y a pas cette immense montée complètement.
Pour moi, ce vide crée une tension et une attente qui est très importante.
Oui, mais qui n'est pas comblée par la musique, là, me semble-t-il.
Enfin, nous avons d'autres ouvrages au programme. Juste signaler sur Twitter, Salomé, alias Mystique 4, nous écrit « Bon, je vais l'avouer, on ne demande pas des aveux, mais cette Salomé de Salzbourg, c'est ce que j'ai vu de plus percutant de Castellucci, avec son Sacre du printemps de poussière et de cendre à la Villette. » C'était un tout autre genre de beauté. Mais alors, question, on va parler tout à l'heure des maîtres chanteurs de Nuremberg, production reprise cette année. Est-ce qu'on reverra cette Salomé mise en scène de Castellucci à Salzbourg ou ailleurs? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet?
Ailleurs, ça m'étonnerait, parce que
c'est fait pour le lieu.
Voilà, c'est fait pour le
lieu. Spectacle fait pour la cour d'honneur à Avignon qui vont ailleurs, donc
oui,
ça pourrait arriver.
Là, c'est un lieu très particulier. Le plateau est tout en longueur, donc ça m'étonnerait qu'on puisse l'avoir ailleurs.
Et Salzbourg reprend des productions d'année sur l'autre.
Salzbourg reprend souvent ses productions, et surtout quand elles sont réussies. Je pense que là-dessus, il y a eu quand même pas mal d'unanimité, donc je pense qu'on a des chances de revoir cette Salomé.
À guetter. Sinon, et si on est abonné à Medici TV, eh bien, on peut découvrir.
C'est gratuit de s'abonner.
C'est gratuit
de
s'abonner.
Je me suis abonné pour pouvoir voir Salomé.
un essai gratuit d'un mois, c'est ça?
Oui, je ne sais pas, mais en tout
alors,
cas, voilà.
Abonnez-vous gratuitement, selon les conseils d'Anna Segalevitch, pour découvrir cette Salomé. À suivre, deux opéras à voir, soit en ligne, soit en DVD, Ariane Anaxos. Ça, c'était Aix-en-Provence et sur Arte Concert. Et on parlera ensuite des maîtres chanteurs de Nuremberg, visibles à Bayreuth et en Blu-ray DVD chez Deutsche Grammophon.
La dispute, France Culture. La porte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique, en revenant cette fois du côté d'Aix-en-Provence, où Bernard Faucroul achevait son mandat de directeur en faisant une fois encore confiance à la Britannique Cathy Mitchell, qu'on aura beaucoup vue ces dernières années à Aix. Cette fois, elle s'attaquait à Ariane Anaxos de Richard Strauss sous la direction de Marc Albrecht, une production à voir donc en ligne sur Arte Concert, opéra en allemand, sur un livret d'Hugo von Hofmannsthal qui propose un prologue. Se déroule dans un intérieur bourgeois, enfin le plus riche homme de Vienne, où doit être d'abord donné un opéra commandé par le maître de maison sur l'histoire d'Ariane Anaxos, et puis s'ajoute normalement une représentation théâtrale de Commedia dell'arte, et puis finalement il est décidé de fusionner les deux spectacles. Vient donc ensuite cet opéra en un acte où l'on découvre Ariane abandonnée par Thésée dans une grotte sur l'île de Naxos, mais les acteurs italiens donc sont là, eux aussi, sur l'île, et se lamentent un peu et se désespèrent de voir ainsi cette pauvre Ariane. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par un avis que nous recueillons sur Twitter de Cyril Escario, une Ariane Anaxos admirablement bien servie par les voix superbes de Sabine Neuvielle, Lisa Davidson, Eric Cutler, Angela Brouwer. Hélas, un naufrage scénique avec la mise en scène brouillonne de Cathy Mitchell. On enrage. C'est un résumé que j'aurais pu faire, mais c'est je ne suis pas Cyril Escario. Anna Segalevitch, pour commencer.
Oui, bah, je comprends Cyril Escario, de... parce que moi aussi j'ai un petit peu enragé. Je dois dire que je suis assez dubitatif, franchement, face à cette mise en scène de Cathy Mitchell.
Moi, je suis dubitatif un devant toutes les mises en scène, sauf une exception de Cathy Mitchell. Bon, Lieutenant Skin étant l'exception.
Bon. Il paraît que le nouvel opéra qui était créé aussi là était très bien avec,
ouais,
avec
paraît,
un nouveau Barbia
paraît.
À Nigan. Bah, ça viendra.
Nous irons voir par nous-mêmes. C'est vrai que ça, on l'a beaucoup vu ces dernières années, notamment avec Aix-en-Provence, et j'avoue que je n'ai aucun bon souvenir de production de Cathy Mitchell.
Bon, moi je ne suis pas aussi radical que vous, mais là je dois dire que j'étais vraiment très, très exaspérée par cette production, parce qu'on frôle, à mon avis, là, le contresens dramaturgique, notamment de
comme toujours avec
l'opéra.
Cathy Mitchell.
On ne le frôle pas, on est en plein dedans.
Voilà, on est en
elle
fond,
lit toujours à l'envers.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle essaie de faire rentrer au chausse-pied des idées qui n'y sont aucun sens, qui n'y sont pas, qui ne racontent rien, et qu'elle ne développe même pas.
Fabrique.
C'est-à-dire que c'est raté sur la forme et sur le fond, mais c'est raté vraiment à tout point de vue, parce qu'une proposition avec laquelle on n'est pas d'accord, bon, mais là, elle ne fait absolument rien de sa proposition. Et bon, la première partie, le prologue, ça marchotte, il y a quelques moments qui sont pas mal, le duo entre le compositeur et Zerbinetta est assez joli. Il y a vraiment, en plus, il y a vraiment une bonne distribution, quoi. Il y a des chanteurs qui sont très très
en
bien,
effet.
Comme le disait notre ami,
Cyril Escario.
Cyril Escario. Voilà. Et là, on se dit, mais quel gâchis, parce qu'on en vient à ce, vraiment, moi, je me suis mise complètement en retrait. La production m'a paru sinistre, interminable, je n'en pouvais plus, et je me disais vraiment, enfin pardon, je suis
c'est
un peu,
pourtant
je suis
pas
un
très
peu
long
dur, hein, mais toute cette deuxième partie, parce que voilà, alors elle a l'idée de faire d'Ariane une femme enceinte. Bon, alors on nous est, au début, donc elle essaie quand même des faux ventres, donc on nous explique hein, qu'on est dans le théâtre, etc., le théâtre dans le théâtre, hein, ok. Ariane a un faux ventre. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont aussi un faux ventre. Ça non plus, je ne comprends pas très bien les doubles d'Ariane.
Oh, bon.
Oui, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Ah, oui. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais
faux ventre.
Elle surfile le faux ventre par moment aussi. Bon donc, cette Ariane a un faux ventre. Et donc, au lieu d'attendre... Enfin, non, d'ailleurs, elle attend Thésée, mais bon, c'est quand arrive Bacchus. Elle accouche à ce moment-là. Et on ne sait pas ce qui est chanté. Est-ce qu'on est content parce que le nouveau-né arrive? Est-ce qu'on est content parce que l'amour revient? Enfin, il y a quand même un amalgame entre l'amour maternel et l'amour entre un homme et une femme. Hein, ça existe. Enfin, c'est pas grave. Ça peut être bien aussi. Enfin, pour moi, il y a un déni de l'amour en scène qui est vraiment criant et qui ne raconte rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans la négation et dans le refus de l'homme qui arrive. Enfin, ce pauvre Bacchus est vraiment... Et pourtant, il est très bien, le chanteur. Hein. Mais il peut rien faire. Il ne se regarde pas, il ne joue pas ensemble, il ne se passe rien entre eux. Et toute la beauté de l'œuvre, c'est quand même ça. C'est quand même
À ce moment-là, la musique déborde de sensualité. Enfin, c'est comme dans Tristan et Isolde, quoi. Mais alors, sensualité sur scène, zéro, quoi. Tout est gris et les personnages, effectivement.
C'est gris, en effet, ouais.
Il n'y a pas d'échange entre eux. Et bon, voilà. Enfin, moi, ce que je retiens surtout de ce spectacle, c'est qu'il n'y a aucun second degré, aucun humour, alors que c'est une œuvre
qui est pleine
d'esprit, pleine d'humour, et tout simplement parce que Cathy Mitchell prend très au sérieux ses propres idées, et notamment son obsession féministe qu'elle colle sur tous ses spectacles, et là effectivement
avec plein de guillemets autour,
et voilà, et elle nous montre une Ariane qui s'est faite engrosser pour bien nous signifier que Thésée est vraiment un salaud de l'avoir plaqué, et puis à la fin surtout elle ne va pas succomber à Bacchus parce que ça serait quand même très très mal, et puis Même Zerbinette, qui est un personnage très léger, plein d'esprit, elle en fait une jeune fille toute sage. Et du coup, moi, j'ai trouvé que Sabine de Vielle n'était pas au maximum. Enfin, c'est très joli ce qu'elle fait.
Mais on l'a vu tellement plus incarnée, rayonnante.
Non, mais attendez, son grand air, elle le chante entièrement de profil avec un béret sur la tête et une lunette. C'est pas correct de faire ça au chanteur.
Non, mais elle peut faire beaucoup de choses, Sabine de Vielle, y compris ça, mais si elle est dirigée avec un regard, un vrai regard. C'est pas le cas, là.
C'est un rôle de pétroleuse, Zerbinette. Ouais. Mais là c'est la négation.
Elle est
ça,
censée ramasser tout, elle peut pas. Non. Elle peut pas, à la fin de son air, quand même, normalement, les gens sont euphoriques à la fin de l'air de Zerbinette. Mais non, mais parce qu'on ne donne pas. Et puis, on ne comprend pas ce qu'elle joue. À nouveau, qu'est-ce qu'elle joue? Elle se déguise en vieil homme qui raconte pour divertir. On ne comprend rien. Elle a un béret sur la tête, elle a des lunettes, et puis on ne voit même pas son visage. Parce qu'en plus, elle a une perruque, donc on voit un petit bout de pommette. Je suis désolée, mais on ne peut pas être expressif en scène quand on ne voit pas le visage d'un chanteur. C'est impossible.
On n'a pas encore entendu Emmanuel Giuliani sur cette mise en scène de Cathy Mitchell. Vous acquiescez?
Je partage votre sentiment. Il n'y a qu'une jolie idée, simplement la réalisation est moche. C'est cette robe lumineuse.
Elle est très belle.
La robe de Zerbinette, la première fois qu'elle allume comme des petits lampions de fête. Mais c'est un peu gros, ce qui fait que, alors qu'elle a une silhouette adorable, Sabine de Vielle paraît pas très à son aise et à son avantage avec cette robe qui pourrait être charmante si elle avait été bien réalisée. Je ferme la parenthèse. Moi, je trouve qu'il y a même, en effet, vis-à-vis d'Ariane, là, on l'a entendu et je me faisais in petto la réflexion. Quand on entend Asmik Grigorian sans la voir, c'est plutôt moins bien. Mmh. Quand on entend Lise Davidson sans la voir, c'est plutôt mieux.
Ouais.
Quelle voix extraordinaire.
Alors,
elle est encore un peu jeune, donc il y a des effets de legato, il y a des moments qu'elle le parfaira ou qu'elle va parfaire, etc.
Mais l'organe,
la voix d'un moelleux, c'est un édredon cette voix, c'est magnifique, ça monte, ça descend, c'est aisé, c'est une voix vraiment admirable, et si elle est bien coachée par elle-même et par son entourage, ça pourra être une merveille. C'est une très grande femme, un peu valkyrie d'allure. Elle est habillée pour la rendre la plus vilaine possible.
Comme un sac,
elle
n'en
passe pas là. Elle passe son temps à tourner autour d'une grande table, qui n'a rien à faire là. Alors, à part essayer de ne pas se prendre les pieds dans la table, voilà. Certes, il y a cette scène de maternité, mais elle en fait quoi de son enfant? Rien.
Elle s'en fiche complètement.
Elle s'en fiche complètement aussi. Donc, si cette idée que vous disiez, Anna, avait été supplantée par en fait ce qui compte, parce qu'elle est toujours amoureuse de Thésée, donc c'est l'enfant de Thésée qui va compter, et Bacchus
vient.
Et puis surtout, c'est quand même grâce évidemment à la musique de Strauss et au génie de ce livret et de ce croisement improbable du grand opéra et de la Commedia dell'arte, quand même un livret du théâtre, mais ébouriffant. Et là, il n'y a plus rien. C'est complètement asséché.
C'est aplati complètement.
Ce qui fait que les personnages de Commedia dell'arte, ils font un peu spectacle de fin d'année un peu ratoche. Ouais, enfin, c'est vraiment...
Ça étant, moi, je n'en avais jamais vu d'Ariane Anaxos. C'est pas si souvent monté que ça, mais est-ce que...
Il y a une production de Laurent Pellic
qu'on a vu à Paris. Une grande époque de Nathalie de Dessay qui en faisait beaucoup.
Ça devait bien lui aller.
Et il y avait une production pas forcément très réussie, puis qui prenait le premier acte théâtral avec le bourgeois gentilhomme justement à Salzbourg.
Ça, c'est la première version.
Avec Jonas Kaufmann à sa grande époque en costume léopard. Je peux dire que l'arrivée de Bacchus, c'était quelque chose. Toutes les spectatrices avaient envie.
Il y a quoi faire avec cette œuvre.
Bien sûr, c'est une matière géniale.
D'accord, mais peut-être compliqué à mettre en scène.
Il faudrait aussi qu'il y ait une direction d'orchestre un peu plus
Alors, Emmanuel Dupuis.
Non, moi je trouvais ça plutôt bien dirigé par Marc Albrecht. Pas mal de vivacité et même de légèreté. Après, maintenant, c'est vrai que l'Orchestre de Paris, même si c'est un orchestre qui se défend, c'est pas le Philharmonique de Vienne. Quand on entend les deux, à quelques jours d'écart, on se rend compte de la différence. Sur le spectacle, il y a quand même une chose que je voudrais souligner. C'est quand on prétend lutter contre les préjugés de genre, comme le fait Cathy Mitchell, et qu'on fait du maître de ballet une folle tordue, moi je trouve ça complètement détestable.
Absolument, j'avais oublié de le signaler. Ça fait partie
Elle est dans la caricature des personnages tout le temps.
Ça commence très vite, comme ça.
Il y a une chose musicalement, moi, que je trouve aussi peu pardonnable, c'est que Dryade, Naïade et Echo, ce trio féminin qui a des passages, mais d'une beauté absolue, on peut distribuer et trouver trois voix jolies et qui vont bien ensemble. Parce que vraiment, là, c'est de la pure jouissance musicale. Mmh. Et et on l'attend. Et en tant que spectateur, on a droit à ça. On a droit à ce que ces passages soient merveilleux, parce que c'est pas trouver une Isolde, une Brunhilde et une Aïda. On peut. Et là, je trouve que pour un festival comme Aix, c'est pas bien de pas se dire on se concentre pour que ces passages-là soient sublimes. Voilà.
Musicalement, encore un mot, Anna Segalevich.
Musicalement, moi, sur la direction, j'étais pas complètement emballée non plus, mais en même temps, franchement, je trouve que c'est difficile. Il y a quelque chose de tellement sinistre qui se dégage visuellement du plateau que je pense que c'est un peu de la glu, hein. à animer pour un chef qui n'est pas aidé non plus. Il y a une façon, c'est un petit orchestre, hein. Ils sont à peine une quarantaine, donc c'est très chambriste. Il y a des couleurs qui sont assez jolies. Ça manque de nerfs. Ça manque de nerfs, ça manque d'éclat, ça manque de panache. Mais je pense que le plateau contamine une fosse et que quand il se passe rien et que c'est aplati, c'est très compliqué d'animer les choses. Donc, pour moi, vraiment, la faute n'est pas du tout incombée à l'orchestre.
Bien. Vous pouvez voir sur Arte Concert, voir et écouter cette production d'Ariane Anaxos de Richard Strauss, dirigée par Marc Albrecht, donc et mise en scène par Cathy Mitchell. Captation réalisée, bien sûr, cet été lors du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Troisième opéra au sommaire de cette dispute et troisième destination, Bayreuth à présent, avec les maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Barikowski. Production à Bayreuth disponible en Blu-ray et DVD chez Deutsche Grammophon, car c'est une production qui avait donc déjà été donnée l'année passée, reprise cette année. En 2016 d'ailleurs, nous avions déjà parlé de cet opéra, déjà dirigé par Philippe Jordan, mais dans une autre mise en scène, c'était présenté alors à l'Opéra de Paris. C'est le 7e des 10 opéras de maturité de Wagner dans l'ordre d'achèvement. Il a été créé le 21 juin 1868 à Munich. L'action se situe à Nuremberg au 16e siècle. Alors, le point de départ, je vais essayer de résumer au mieux. Eva, fille encore d'un riche bourgeois, qui est orfèvre, et Magdalène, sa nourrice, s'apprête à quitter l'église. Et Walter, jeune noblio rural, tombe et amoureux d'Eva, qu'il a rencontré dans la maison de son père où il loge, il vient de la campagne lui. Hein. Un amour réciproque, Walter apprend qu'Eva est promise au gagnant du concours de chant qui se tiendra le lendemain. Malheureusement, le chant est loin d'être la spécialité de Walter. On écoute, c'était un choix et un conseil judicieux d'Emmanuel Giuliani, le quintet de ses maîtres chanteurs de Nuremberg. Oui, il faut pouvoir arrêter Wagner et on n'est pas les premiers à essayer, mais ça n'arrive jamais vraiment tout à fait bien. Mais c'est comme ça pour avoir entendu ce long extrait des maîtres chanteurs de Nuremberg, production de Bayreuth. Alors, ce n'est pas que vous ne l'avez pas vu le même soir, vous ne l'avez pas vu la même année, carrément, puisque Emmanuel Giuliani et Anna Segalevich, vous l'avez vu l'été passé, Emmanuel Dupuis cet été. Mm-hmm. Donc, il y a un rôle qui change, qui n'est pas le moindre, c'est celui d'Eva. On a entendu un extrait du DVD, donc c'est la version et le plateau vocal de 2017 avec l'Eva vue par vos deux consoeurs. Commençons par Anna Segalevich. Vous avez envie de commencer par quoi? Parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce
Hop, je veux bien commencer par la mise en scène parce que
c'est
voilà, il y a vraiment une idée qui est très forte.
Elle est marquée.
Ouais, elle est marquée puis elle est brillante. Franchement, moi c'était la première fois que j'allais à Bayreuth, je dois dire, et j'étais assez impressionnée d'arriver dans cette grande salle du Festspielhaus. J'étais allée au musée juste avant.
Vos devoirs comme d'habitude.
Ah non, c'était par plaisir.
Non, je sais. Devoirs et plaisir s'entendent très bien chez
oui,
vous.
Oui, oui. Et donc, non mais tout ça, je raconte ça parce que ça joue pour cette mise en scène. En fait. Le musée a rouvert en 2015, après 5 années de travaux, et clairement, on prend le parti d'assumer le passé trouble de la famille, enfin trouble, non pas du tout trouble, très clair d'ailleurs, enfin les affinités, les accointances de la famille Wagner avec le régime nazi, notamment voilà pendant la guerre, donc on voit celui qu'on appelait un peu l'oncle Wolf, donc on voit des photos, on voit des films, etc. Donc le musée prend vraiment le parti d'assumer ce passé-là. Et Barikowski, donc c'est extrêmement glaçant, hein, je dois dire, quand on arrive et qu'on voit tout ça, on se dit oh là là. Bon, et puis Barikowski, donc dans sa mise en scène des maîtres chanteurs, choisit de parler de ça aussi. Donc en fait, il nous place au départ. Ah oui, j'ai une protestation à exprimer qui est très importante.
Et qui doit être rapide.
Alors très rapide. Il n'y a pas de surtitres à Bayreuth, ce que je peux tout à fait comprendre.
Hérésie.
Voilà, ça se discute, mais on a tout à fait le droit. En revanche, quand on ajoute des textes qui racontent quelque chose au début de l'acte 1, de l'acte 2 et de l'acte 3, merci de les traduire parce que moi, je ne suis pas germanophone.
Pour ça, le DVD, c'est pas mal. Hein.
Voilà, merci le DVD. Oui, parce que non,
il y a des textes qui sont effectivement projetés.
Il y a plein de textes au début de l'acte 1, de l'acte 2 et de l'acte 3. si on les comprend pas, alors on devine les choses. Mais c'est quand même pas très clair et je trouve que c'est regrettable. Voilà, c'est dommageable. Bon, ceci étant dit, donc,
Bayreuth
on arrive,
tremble après cette protestation.
Est... Comment?
Bayreuth tremble.
Bayreuth m'écoute et tremble, vous avez raison.
Non, mais vous faites bien de
donc on est, non, mais je le dis quand même. Donc, Barikowski nous place en 1875 et il nous explique que Liszt va arriver, donc Liszt, le beau-père de Richard Wagner, que Wagner est sorti promener les chiens, qu'il va rentrer et que Cosima est là et qu'elle a la migraine comme d'habitude. Là commence l'action. Et, pardon, j'oublie un détail très très important, que Hermann Lévy, le grand chef d'orchestre, est là aussi. Et en fait, Wagner va distribuer les rôles des maîtres chanteurs. Mmh. Donc, Hermann Lévy va jouer Beckmesser. Wagner va s'attribuer un peu tous les rôles, c'est-à-dire qu'il va faire à la fois Sax, il va faire à la fois Walter et David, comme des plein de petits doubles de lui. Cosima va jouer Eva, bien sûr, et puis Liszt va jouer Pogner. Voilà. Donc, et après commence l'histoire dans l'histoire. Alors, ça paraît simple ou compliqué ou alambiqué, ça marche de façon absolument brillante parce que ça se déroule tout au long des trois actes de façon incroyablement pertinente. Enfin, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense qu'il faut que je laisse la parole
absolument
à mes camarades. Voilà.
Oui, parce qu'on va rendre l'antenne après, vous savez. Oui. Emmanuel Giuliani.
Alors, le souvenir que j'ai, et comme vous, Anna, d'une mise en scène extrêmement virtuose, brillante, intelligente, qui pourrait être très compliquée et qui, en fait, réussit à être d'une parfaite lisibilité.
Qui fait sens totalement.
Qui fait tout à fait sens parce que elle fait à la fois beaucoup confiance au spectateur, mais elle lui donne aussi tout le temps les clés. Comme c'est tout à fait comme dans les romans de Dumas, où quand on a quitté un personnage il y a très longtemps, il nous dit gentiment, vous vous rappelez bien, celui-là qui était le troisième palefrenier du deuxième compagnon. De machin. On se le rappelle pas du tout, mais comme il nous l'a dit gentiment, voilà, et on continue le récit. Et Barikowski, il a exactement cette même attitude vis-à-vis du public. Je vais vous associer à quelque chose de sophistiqué et de compliqué. Je vous fais confiance, mais je suis là aussi pour vous guider. C'est mon boulot, j'ai été payé pour, et voilà. Et donc ça, c'est très très gratifiant. D'autant plus que, alors, vous avez raison pour les textes projetés. En revanche, merci au Festival de Bayreuth qui a des programmes formidables avec des textes et les textes du programme des maîtres chanteurs, notamment celui de Barikowski, et tout un essai aussi sur Wagner et Nuremberg sont absolument formidables et traduits.
En français.
En français. Mmh. En anglais et en français. Et en fait, c'est en choisissant de situer le début de l'action dans la villa Wanfried, où Wagner lui-même, comme vous l'avez dit Anna, mettait en scène, jouait à ses amis, à ses vrais et à ses faux amis, qu'il martyrisait tout en les gratifiant. Enfin, c'était très compliqué, on sait comment était le personnage. Il était là comme le cite Barikowski, le directeur général de sa célébrité, et les maîtres chanteurs, c'est exactement ça. Ouais. Et en plus, après, au fil des actes, il va y avoir aussi toute une mise en perspective extrêmement intelligente de toutes les ambiguïtés de Nuremberg, ce paradis perdu de la germanité et de l'Allemagne, avec tous les bons et les terribles côtés, et la manière dont et l'individu et le peuple allemand se retrouvent, se cherchent, se perdent, se martyrisent, etc. Et c'est remarquablement fait.
Emmanuel Dupuis.
Alors, sur l'acte 1, en tout cas, je rejoins tout à fait mes deux consoeurs, parce que je trouve effectivement que Barikowski file la métaphore de façon absolument, avec un brio
parallèle.
Totalement virtuose, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que, bon, effectivement, tout se passe dans la bibliothèque de la villa Wanfried, c'est-à-dire la villa que Wagner s'était fait construire à Bayreuth, et tout est cohérent, et tout marche, et on est vraiment dans l'univers de la comédie bourgeoise, et il y a énormément de mouvements, c'est plein de clins d'œil, plein d'esprit, on rit souvent, enfin bon, c'est vrai, tout ça est vraiment très très bien fait, mais on se dit que ce parallèle, effectivement...
Jusqu'où il peut aller, hein.
Voilà, il va falloir en sortir à un moment, et on en sort à la fin de l'acte 1, puisqu'à la fin de l'acte 1, la bibliothèque de la villa Wanfried recule au fond de la scène et disparaît au fond de la scène, et donc là, effectivement, on se retrouve dans la salle du procès de Nuremberg, et Wagner est appelé à la barre, et on se doute qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Et ensuite... Bon, c'est surtout l'acte 2 qui passe à mauvais quart d'heure, où là, je trouve qu'à l'acte 2, l'acte 2 comme l'acte 3 va donc se passer dans la salle du procès de Nuremberg, et je trouve qu'à l'acte 2, Barikowski ne fait pas grand-chose de ce décor. Il l'utilise beaucoup mieux à l'acte 3. Et puis surtout...
Bah, l'acte 2, il apparaît très furtivement. Et c'est essentiellement une prairie,
l'acte 2. Oui. C'est ce grand espace
voilà, on a l'impression d'être dans verdoyant.
Jardin. Verdoyant, ouais. Il y a plein d'herbes au sol.
Ce que j'ai vu à Bayreuth, c'était quand même la salle du tribunal. La salle du tribunal, mais pas aménagée autant qu'à l'acte 3.
Nous, c'était vraiment une prairie verdoyante avec juste une bibliothèque au fond.
On était sortis de la maison pour pique-niquer. Oui.
Alors, il va falloir que je visionne le DVD pour comparer les deux. À Bayreuth, effectivement, les mises en scène évoluent d'une année à l'autre, souvent. Bon, à vérifier.
Il reste 1 minute 30 pour parler de musique.
Mais alors, que se passait c'est-il à la fin de l'acte 2, parce que c'est là où moi j'ai quand même quelque chose de qui me chagrine un petit peu, mais peut-être que vous allez m'expliquer comment c'était l'année dernière, parce que c'était peut-être différent de cet été.
C'est-à-dire
alors je crois pas que ce soit différent. Bon. À l'acte 2, donc Beckmesser est transformé, parce que donc il y a un conflit, parce que il chante une sérénade. Bon, voilà, je vais aller vite. En gros, on lui met le masque d'une caricature juive des années 30.
Et puis
il y a une sorte
Twitter
de grand ballon
en ce moment
qui se gonfle avec une caricature énorme. Alors c'est pas dans la dentelle, en effet, pas du tout. Je suis d'accord, c'est lourd. Sauf que bon, le ballon se dégonfle et apparaît juste une kippa, il reste plus que la kippa avec l'étoile de David. Bon, alors je suis d'accord, à ce moment-là, moi je me suis dit aussi, bon, c'est un peu lourdingue, ça va.
Légèrement quand même.
D'accord, on a compris. Sauf que, au début de l'acte 3, quand on voit Saxe qui est assis, seul, en train de souper, dans cette salle du procès de Nuremberg, et qu'il y a tout le prélude de l'acte 3, où on peut y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça fait suite à cette caricature, et du coup, bah, oui, bien sûr, c'est spectaculaire, c'est un peu les pieds dans le plat, mais pour moi, c'est compensé par ce qui se passe après, et je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est quand même une image qui a beaucoup de force dans ce contexte, dans ce lieu, et ça aurait pu être plus subtil.
C'est quand même un peu appuyé et assez redondant, le fait d'avoir à la fois le masque de la caractère juive et puis la grosse baudruche qui se gonfle. C'est un petit peu,
On a compris,
Un petit peu trop appuyé.
Bon, et pour savoir ce qu'il en est musicalement, vous vous reportez au DVD et au Blu-ray chez Deutsche Grammophon, puisqu'il nous reste plus de temps pour parler de cette musique. Mise en scène, il y avait vraiment de quoi dire sur ces maîtres chanteurs du Nuremberg de Wagner, dirigé par Philippe Jordan. Mise en scène, c'est ça dont on a parlé, mais c'est comme ça arrive. Barikowski, K-O-S-K-I, hein, c'est pas Barikowski en un seul mot, Barry c'est le prénom. Non mais peut-être parce que c'est pas un nom très fréquent, je sais pas s'il a fait des mises en scène en France.
On a vu Une flûte enchantée à l'Opéra Comique la saison dernière.
C'était lui, d'accord. En tout cas, donc en DVD Blu-ray chez Deutsche Grammophon. Et avant de conclure cette émission, et parce que c'est sa grande joie, Anna Sigalevitch va être avec moi pour le jeu de la dispute. Et Anna, vous allez nous rappeler la question d'hier soir et nous donner sa réponse.
Quel était le médium employé par Kader Attia lors de ses premières expositions ?
La réponse était
la photographie.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour découvrir le musée de la Romanité à Nîmes. C'est une exposition qui s'appelle Gladiateurs, héros du Colisée, visible jusqu'au 24 septembre. Quelle est la question, Anna ?
À quel monument incontournable le musée de la Romanité de Nîmes fait-il face ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver bien sûr sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter cette émission et bien sûr également s'abonner à son podcast. Demain, art plastique à 19h dans la dispute avec Yasmine Youssi, Corinne Rondeau et Anna Elpija. On reviendra sur les rencontres de la photographie d'Arles. Nous parlerons également de l'exposition Ligne, Forme, Couleur, Ellsworth, Kelly à la collection Lambert et puis l'exposition de Sabine Weiss, Les villes, la rue, l'autre au Centre Pompidou.
France Culture, l'esprit d'ouverture.